Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planet Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars, pour cette nouvelle édition littérature consacrée au volume 2 du Dr Aphra, sorti chez Panini Comics en décembre 2020. Ici Loïc, et pour en discuter avec moi, j'accueille le dynamique duo de l'Amérique du Nord, Francis et Jean. Bonjour messieurs.
Bonjour Loïc, salut.
Salut Loïc, salut Jean, salut tout le monde, les auditeurs. Je remarque que le dynamique duo revient souvent dans tes présentations, Loïc. On sent qu'il y a un amour pour Batman et...
J'ai un petit crush pour Batman, on va dire. Mais j'aime bien... je trouve que c'est justement une façon dynamique de présenter les gens. Donc, ça me va bien,
on va dire. C'est bon. Comme on va y aller en ordre chronologique. C'est moi qui ai le plus d'ancienneté sur Jean. Donc, je serai le vieux justicier, tu comprends, qui n'a plus aucun idéal, là, puis qui marque les vilains au fer rouge. Ça me va très bien.
Donc on a Baptiste et Jobin avec nous ce soir, donc bonsoir messieurs. donc ce soir au programme, donc le volume 2 de Dr Aphra, comme je le disais en introduction, on rappelle notre partenaire littérature que vous connaissez peut-être, c'est le groupe Star Wars Littérature Québec. On vous invite à les rejoindre où que vous soyez dans le monde, et on vous invite particulièrement à participer à leur collecte de fonds pour la cause de la santé mentale au Québec, et on leur fait un coucou. Et comme toujours, on vous invite à montrer vos couleurs, à porter fièrement des t-shirts, des produits dérivés de Star Wars en direct et d'autres designs Star Wars créés par notre leader suprême, avec récemment un nouvel ajout donc, à cette boutique. Et vous retrouverez cette boutique à l'adresse starwars.direct/boutique. Très beau nouveau design de notre leader suprême.
Ça va même m'influencer à aller écouter cette série-là que je ne connais pas. Mais ouais, Yellowstone, le mashup Yellowstone. Il paraît que c'est très bien. Très bien.
Eh bien, tu pourras nous en dire plus ultérieurement, Francis. Mais en attendant, on va passer en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Et voilà donc ce volume de Dr Aphra, 112 pages, avec les épisodes 6 à 10 de la série de 2020, pour un total de 18€. Et Jean va nous faire un petit résumé.
Ok. Alors, c'est parti pour le petit résumé. Donc, on retrouve évidemment notre héroïne préférée Aphra en très mauvaise posture, car elle va être livrée par les chasseurs de primes à Lady Domina Tag. Tag, c'est comme ça qu'on prononce, ok. On va plus parler en détail sur Tag pendant notre conversation. Donc, elle embauche pour dégoter un Path Engine Nihil, un device qui, étudié et exploité, pourrait avantager un camp de la guerre intergalactique et enrichir une compagnie industrielle telle que celle de Domina, justement. Donc, Aphra va team-up avec Sana Staros et les deux vont suivre la piste pour arriver jusqu'au device. Elles passeront par Corellia devant Lady Proxima, puis elles passeront par Dolarhyde, qui est une planète inédite, si je ne m'abuse, dans des vestiges de vaisseaux Nihil, pour se rendre compte que le device n'est plus là où il devrait être. En fait. Entre-temps, le concurrent de Domina, qui est Beol Deruyet, annonce une présentation du dit device. Il l'aurait en effet obtenu. Donc Aphra et Sana se rendent au siège de Beol, essayent de mettre la main sur ce device, mais comme d'habitude avec Aphra, ça va capoter. Elle arrive cependant à récupérer le noyau du dit device qu'elle va réussir à remettre à Domina. Donc ça, c'est vraiment le gros du résumé de ce tome-là. En parallèle, il y a plein d'autres petites aventures, dont les aventures de Just Lucky qui se passent en parallèle et qu'on va plus développer peut-être pendant notre conversation.
Ouais, vas-y, Jean. Vas-y.
Ben non, ben pour le résumé, c'est un peu ça, quoi, c'est tout.
Si tu veux, non, mais si tu veux enchaîner sur ta critique, ce que tu en as pensé, puis nous. Bah oui, okay. Parle-nous de Just Lucky, vas-y.
Just Lucky, déjà avant Just Lucky, moi, j'aimerais bien beaucoup parler d'Afra, parce que j'ai jamais eu trop l'occasion de discuter avec vous d'Afra et de ce personnage. Donc c'est un personnage évidemment ultra connu, blablabla, que même avant de se lancer dans la réalité Star Wars, j'en avais déjà entendu parler, mais partout, quoi, dans les podcasts évidemment, mais ailleurs, quoi, elle était devenue vraiment très populaire. Et ça me titillait, j'entendais toujours parler d'une Indiana Jones au féminin dans l'univers de Star Wars et tout, et ça m'avait beaucoup intrigué, quoi.
Elle a même eu droit à elle et ses droïdes ont même eu droit aux figurines, aux statuettes, là, Gentle Giant et compagnie, donc effectivement. Je crois, en tout cas, supposé qu'aux États-Unis, ça a quand même été un gros succès, là, ce personnage.
D'accord. Excellent. Excellent.
Il ne nous manque plus qu'une adaptation live et puis une adaptation animée, et puis on aura la totale.
Ouais.
Oui, et puis ça se rapproche, là, vu que si vous avez vu le dernier Boba Fett, il y a un personnage de la BD d'Afra qui a fait son apparition, donc petit à petit, ça se rapproche. Donc ça, c'est cool. J'aime bien aussi le fait que c'est bête, mais le fait qu'elle soit asiatique, c'est un peu original dans Star Wars, parce que bon, on n'est pas très gâté à ce niveau-là, quoi. Dans la trilogie originale, je crois qu'il n'y a pas eu toute personne asiatique, hormis les figurants, quoi.
Un petit peu dans la post-logie.
Voilà, dans la post-logie,
avec Rose.
Les jumelles, c'est pas les jumelles,
les sœurs.
Évidemment, dans Rogue One, on en a eu plusieurs, mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est depuis l'ère Disney, effectivement.
Voilà, donc ça, c'est pas mal. En plus, j'ai une petite fascination pour ce continent en particulier, donc moi, ça me touche un petit peu, je dois dire. Et donc, je me suis lancé, comme vous, par Dark Vador en premier, puis la série 2016, puis la série 2020. Et j'avoue, tu me connais, Loïc, je suis assez enthousiaste. Vis-à-vis de la littérature Star Wars, mais alors quand ça vient à parler d'Afra, moi je suis ultra client, je suis un peu un fanboy, on va appeler ça comme ça, donc gros fanboy Afra, même si c'est entre guillemets moins bon, ça passe, franchement ça passe, j'ai jamais été trop déçu par aucune des BD, alors bon, je vais peut-être pas être le plus objectif ce soir, mais...
T'inquiète pas, je serai là pour contrebalancer tout ça.
Ça va.
Pas d'inquiétude.
Cool. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Bon, j'aimerais aussi, mais après vos avis, j'aime beaucoup parler de l'équipe créative, donc la scénariste, c'est une scénariste, et du dessinateur aussi, elle fait des dessinateurs, donc on verra ça après. Mais oui, voilà, premier avis très positif, j'ai beaucoup aimé, voilà.
Ok. Francis, vas-y.
Ouais, pour rappel, je suis loin d'être un amoureux d'Afra, je suis loin d'être un hater d'Afra non plus. De mon côté, c'est un personnage que je trouve qui a sa place dans l'univers Star Wars, entre autres, ne serait-ce que pour le public qui amène, on va dire, ou pour l'attitude qui amène. C'est vraiment un personnage irrévérencieux à souhait. Je remarque par exemple que chez mes adolescents ici à la maison, c'est un des personnages qu'ils préfèrent justement pour cette attitude-là et cette folie-là. Des fois, évidemment, ça va selon les auteurs. On a eu plusieurs auteurs sur Afra. Je me souviens entre autres de l'album qui était le plus étrange, là, je crois que c'était le deuxième album de la première série là, de 2016, mais où est-ce qu'il y avait carrément un droïde d'improbabilité. Et c'est ça, Afra qui avait transformé des petits êtres vivants, des petits rongeurs là, en explosifs, là, en grenades.
Ah,
en
tout cas, c'est
vraiment, c'est une série que les surprises sont amusantes, c'est ça. Que tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas ce qu'il va y avoir à la page suivante. Donc, ça, c'est bien intéressant. Pour ce qui est de cet album-ci, je rappelle que pour le premier album, j'avais pas vraiment apprécié et je crois que j'étais un peu seul.
Quoique
là, il y a Aude qui m'a rejoint récemment.
Mais moi, effectivement, pour rappeler, pour ceux qui ont peut-être pas suivi l'émission d'avant, moi qui suis très très dur avec Afra, j'avais beaucoup apprécié ce volume 1.
Incroyable. Non, c'est ça, moi, c'est que non seulement il y avait le scénario, mais il y avait les dessins aussi là, que la dessinatrice Maury Pillet. Cette fois-ci, on a le ruban déroulant qui monte. On a gardé la même auteur, la même scénariste, mais on a changé au niveau dessinateur. Et d'ailleurs, on en a deux, si je ne me trompe pas, sur cet album-là. Donc, c'est une nette. Ouais, ouais, il y a comme un, comment on dit en français.
Un helper peut-être.
Ouais, ouais, c'est ça. Mais bref, c'est ça, c'est une bonne amélioration, même si j'ai remarqué beaucoup de défauts. On a à certains moments vraiment de la difficulté pour le dessinateur avec les yeux et entre autres la bouche du personnage. Je vous montrerai des images, là, mais Afra a vraiment des duck face, comme on dit en bon français, là, à la comment dire, Instagram un peu, même si là, cette mode-là est passée. Et à l'inverse aussi, quand c'est des réactions de surprise ou tout ça, là, vraiment des petits problèmes avec les visages, mais sinon, au niveau colorisation, puis au niveau les vaisseaux, tout ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Vraiment une bonne amélioration par rapport au premier. Côté scénario, c'est léger, c'est court. En même temps, on sent que, puis c'est pas juste la série Afra, pour toutes les séries, je crois que l'événement de la guerre des Jasseurs de Prime, on en parlera dans un autre épisode, mais à ce moment-là, tout le monde savait que ça s'en venait. Donc j'ai l'impression que plusieurs arcs ont soit été compressés pour arriver avant le moment fatidique, ou l'inverse, certaines choses ont été laissées tomber et peut-être qu'on y reviendra par après. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le cas ici. Afra aussi, une technicalité qui est présente dans cet album-là, c'est que c'est la série par excellence, c'était ça pour la première série aussi, pour les liens avec d'autres médias, d'autres univers, etc. Je me souviens, ça a été dans les premières BD à faire des liens avec Rogue One en 2016, après la sortie du film. Donc tout de suite, dans le numéro 1, on avait beaucoup, beaucoup de références à Rogue One. Cette fois-ci, ben, c'est la Haute République. Plusieurs références à la Haute République. Évidemment, son statut d'archéologue fait que ça lui permet souvent d'aller connecter un peu tout. Donc, plusieurs références là, de toutes sortes là-dedans. Évidemment, pour des fans finis comme nous, ben c'est toujours plaisant là, d'avoir des petites références, même s'il ne faut pas en abuser. Donc, c'est ça. On a mentionné le personnage de Sana Staros, qui est de retour dans cet album-là. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Même si je préfère ses interactions avec les rebelles, ça reste que j'aime bien ses interactions avec Afra. Et là, on n'est plus dans du... parce que dans la première série, bon, c'est des ex. Hein, Sana Staros et Dr. Afra, c'est deux anciennes compagnes du temps de l'université. D'ailleurs, elle est très présente dans l'audio-drama Dr. Afra, où est-ce qu'on revit des moments à l'université. Mais là, on n'est plus là-dedans. Vraiment, Sana Staros veut rien savoir de travailler avec Afra, mais elle se fait entraîner un peu de force là, par les événements. Donc, non, c'est ça. J'ai trouvé ça bien agréable. Dernière chose, je l'avais mentionné dans le premier épisode, mais j'aime bien justement l'histoire de la famille Tag. Je trouve que c'est une des choses qui était sous-développée un peu dans Star Wars, dans le canon surtout. Donc, d'avoir ça, l'aspect grands aristocrates, pas aristocrates, mais c'est ça, les grandes industries là, toutes puissantes.
Oui, capitaine d'industrie, oui.
C'est ça, donc je trouve ça intéressant, je trouve que ça ajoute. Là, c'est plus juste rebelle, empire, puis chasseur de primes. On vient ajouter des gens dans l'équation. Je trouve que c'est parfait pour Afra, justement, qui ça lui donne de la clientèle possible.
Et pour une fois, Francis, ce n'est pas quelqu'un du monde du crime.
Ben, c'est ça, exactement.
Ça change.
Donc, ça change aussi.
Même si, bon, les grands capitaines d'industrie...
Oui, d'accord.
C'est des criminels en col blanc.
je suis d'accord avec cette affirmation. Cependant, elle n'est pas... Enfin, je veux dire, on n'est pas dans chasseurs de primes ou mafia directe qui pataugerait dans les bas-fonds de la pègre, quoi.
Enfin, non, c'est ça, c'est très différent. Ben, au mieux, on se dirait elle fait de l'évasion fiscale. Ça, c'est le minimum.
Ah bon. Oui, c'est sûr.
Non, mais plus sérieusement, de toute façon, la série va continuer à se développer. Les personnages vont être dans la guerre des chasseurs de primes aussi, là, l'événement. Donc, on va voir que c'est ça. C'est une famille intéressante, particulière. Moi, entre autres, il y a un one-shot qu'on critiquera une autre fois, mais dans la guerre des chasseurs de primes, qui revient sur cette industrie-là, cette famille-là en particulier. J'ai vraiment aimé, alors que je m'attendais là, d'habitude un one-shot en partant, ça part mal. Mais là, vraiment, c'était super. Donc, c'est ça. Voilà pour Afra numéro 2. On va garder ma note pour la fin, mais je trouvais que ça avait vraiment mal parti, cette nouvelle série-là de 2020, avec le premier volume. ce deuxième volume-là m'a plus intéressé, l'espèce d'intrigue du, comment tu disais, genre le device en anglais.
Donc, ouais, un réacteur, en fait. Hein.
Ouais, c'est ça, qui viendrait supposément de l'époque de la Haute République, permettant les fameux sauts en hyperespace un peu sortis de nulle part, là, puis qui leur permettent de passer d'un endroit à l'autre, un peu comme des micro-sauts, là, mais en plus contrôlé, on va dire. Tout ça, j'ai trouvé ça intéressant. L'autre, le concurrent des tags, justement, comme tu as dit, Jean, qui affirme avoir le réacteur fonctionnel alors que ce n'est pas encore vrai. Donc, c'est souvent ça, les annonces de grandes entreprises de technologie qui font des belles annonces, mais en fait, c'est pas encore au point. Finalement, plusieurs années après, tu dis, il est arrivé quoi avec tel produit? Là? Ah ben, ça a disparu. Non, ça n'a jamais existé. Fait que non, c'est ça, j'ai bien aimé tout cette intrigue-là, mais ça reste léger. Ça reste très très rapide. Et le dernier numéro, si je remets les albums, les gens vont pouvoir le voir. Contrairement aux autres séries, pour la série Afra, le premier numéro du méga crossover là, de War of the Bounty Hunter a été inclus par Panini dans l'album 100% d'Afra au lieu d'être dans les albums de War of the Bounty Hunters. Aurélien, lors de notre dernière émission avec lui, Aurélien Vivès de chez Panini, nous a expliqué un peu pourquoi. Parce qu'il considérait que c'était un peu n'importe quoi d'appeler ça un prélude. Là, c'est quoi? C'est la dernière page? Là. Tout le reste de l'album n'a aucun lien avec la guerre des chasseurs de primes. Mais voilà. Fait que c'est juste pour montrer que c'est ça. Ça va vite. On se demande même aussi à un moment si Sanastaros va pas y rester. Là. On le voit sur la quatrième couverture. Mais voilà. C'est un bon deuxième album, même si ça sera pas dans le top. Là. C'est pas le Seigneur Noir des sites. Mais pour un Docteur Aphra récent, je trouve ça pas si mal.
Et pour rebondir sur le fait qu'ils aient inclus le dernier issue qui commence la guerre des chasseurs de primes. En VO, c'est la même chose. Ils l'ont aussi inclus dans ce volume-là. Et oui, comme tu dis, on va dire 90% du numéro, c'est la conclusion de cet arc-là. Et t'as les quatre dernières pages, ça entame. Et comme tu disais, t'as l'impression que ça coupe cette intrigue-là pour te dire, allez, faut qu'on rentre dans le crossover. Et du coup, tu sens la découpe. Tu sens que peut-être que l'arc, il aurait peut-être duré un peu plus longtemps sans ce jeu crossover géant.
C'est sûr qu'à un moment donné, ils ont dit bon, il va y avoir un événement.
Parce qu'en fait, ils font un lien entre quelqu'un qui travaille pour le cousin, je crois même, de Domina, qui serait sur la piste d'un gros coup, en fait. Mais il a disparu. Donc, en fait, ce gros coup, forcément, c'est Han Solo qui est recherché par tout le monde.
Après, c'est bien fait, un peu. La transition est bien faite, je trouve.
Je trouve que c'est intelligent. C'est fait intelligemment.
Je peux peut-être mentionner, tu l'as dit dans ton résumé, Jean, je n'avais pas pensé en parler, parce que pour moi, c'est 100% insignifiant. Ça fait partie de ce qui fait baisser ma note. Les moments avec Just Lucky, là, c'est comment que Panini a traduit son nom déjà? C'est Chance? Quelque chose comme ça, je pense que c'est ça. Mais personnage que je trouvais sans intérêt dans le premier volume, que je trouve sans intérêt dans le deuxième. Et là, vraiment, comme tu disais, Jean, cette fois-ci, il n'est pas en présence d'Aphra du tout. Là, on suit vraiment en parallèle. On apprend un peu plus sur son background, son petit frère sur Canto Bite.
On nous dise que les quatre personnages, que Aphra, Sana...
Chance et Ariel.
Les deux chances probablement se rencontrer. Voilà. J'arrive même pas franchement à retenir les prénoms de ces personnages. Probablement que ces quatre personnages risquent probablement de s'affronter pour la récupération de Han Solo. En tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre à la dernière page du numéro, puisqu'ils sont tous les quatre en route, en deux équipes, vers ce qui semble être un point qui converge. Donc, pour moi, voilà, ils vont forcément s'affronter pour essayer de récupérer le gros lot, quoi.
Mm-hmm. Et justement, c'est vraiment la dernière page, là. Tu décris la dernière page.
C'est la dernière page. Et j'ai pas décrit la dernière case encore, parce que vous n'en avez pas parlé.
Je pensais en parler après.
Je vais enchaîner sur ma critique avant qu'on parle de ce personnage. Parce que je sais que vous l'attendez impatiemment. Va-t-il l'encenser? Va-t-il la défoncer?
le suspense. Il faudrait qu'on ait un bruit de tambour qui roule.
mystère. Alors, on l'a pas dit depuis longtemps, Francis, mais j'ai pas détesté. Vraiment. Voilà. Je l'ai pas trouvé au niveau du premier, comme vous l'avez dit tous les deux, le scénario est très très mince. C'est vraiment un prétexte. On sent qu'on est dans l'attente de quelque chose de plus gros, donc on est sur une transition. Donc c'est un petit peu dérangeant à ce niveau-là. Par contre, j'ai beaucoup apprécié de retrouver cette équipe entre Sana et Aphra. Je trouve que c'était très dynamique, encore une fois, un dynamique duo. Le fait de les lier au Nil, c'est intelligemment fait, et comme tu l'as dit, Francis, le fait qu'elle soit archéologue, ça prend tout son sens. J'aime beaucoup moins qu'encore une fois, elle soit toujours en fait confrontée à des méchants, des vilains, etc. Enfin, je veux dire, il faut des péripéties, il faut qu'il se passe quelque chose dans un volume dans du Star Wars. Je pense qu'on peut le faire autrement. Alors, je vais faire une comparaison qui, je pense qu'elle est inédite dans toute l'histoire de Star Wars en direct. Il y a quelqu'un qui savait très bien traiter en comics une partie archéologique et la relier à des événements qui se sont réellement passés au sein de l'univers fictionnel qu'il développait. Ce sont deux messieurs, en fait, qui s'appelaient Carl Barks et Don Rosa, qui officiaient sur des comics Picsou à l'époque, donc dans les années 50 et dans les années 80-90, et qui ont très bien réussi à montrer qu'on peut être archéologue sans être forcément confronté à des voleurs. Alors, il y en a, pas toujours. On peut être archéologue, chercher un trésor et être confronté à des gens qui le protègent, tout simplement, pourquoi pas. Je pense qu'ici, ça aurait peut-être un peu plus de sens que de les faire rencontrer un énième groupe de personnages qui sont à la recherche du même artefact, etc., pour s'enrichir et tout ça. Maintenant, le scénario, c'est vrai que c'est la partie la plus faible. J'ai quand même pris du plaisir à retrouver ces personnages, à les voir fonctionner ensemble, ça fonctionne vraiment bien. J'aime beaucoup Domina. Alors, pas parce qu'elle s'appelle Domina, mais parce que c'est un personnage qui est très intéressant. Je vais la comparer à quelqu'un dont je parle beaucoup, et je fais un focus sur ce personnage, mais à la reine de Shutorun, parce que c'est un personnage qui avait fonctionné un petit peu pareil, qui était en arrière-plan et qui avait pris de l'importance au fil du temps. Peut-être que Domina le sera aussi, et si elle est bien développée, ce sera vraiment un personnage qui, je pense, sera intéressant. Francis, j'ai vraiment hâte de lire cet épisode dont tu nous as parlé tout à l'heure, et d'en découvrir un petit peu plus. Par contre, la partie la plus faible, mais vraiment, 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 j'ai dû vraiment pousser, et c'est vrai que ça va faire baisser la note. C'est les parties avec Chance, Lucky. Je comprends pas ce personnage, j'ai beaucoup de mal. Ça fonctionnait dans le premier volume parce qu'il était au sein de l'équipe d'Aphra et que c'était un personnage secondaire qui gravitait. Mais finalement, c'est des personnages qui n'ont pas autant de charisme que des Christian Lenoir ou des droïdes négatifs.
Un autre trademark, je vais faire de l'argent avec cet épisode-là.
On vous renvoie donc Continuité Star Wars en direct à nos émissions consacrées à Boba Fett. C'est dommage en fait d'avoir un cast de personnages secondaires et de ne pas trop savoir quoi en faire. Dans ce cas-là, supprimez-les, ne créez pas des personnages que vous ne savez pas écrire ou sur lesquels vous n'avez rien à raconter. J'ai quand même passé un bon moment. Alors je vais faire une petite, je vais faire plaisir à Thomas s'il nous écoute. Je vais faire une petite référence Dragon Ball puisque à un moment. Lucky fait face sur Canto Bight, un adversaire que j'ai trouvé en fait tout droit sorti d'un épisode de Dragon Ball Super, avec ce bandeau et cette espèce de monocle sur l'œil qui m'a fait penser au dernier adversaire de Goku qui s'appelle Granola. Je me suis demandé si c'était pas une inspiration, comme le manga est en expansion partout dans le monde et aux États-Unis aussi, il inspire certains créateurs. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que c'est juste un hasard.
Tu parles du mafieux, du chef du clan sur Canto Bight, c'est ça
À cause, je crois, c'est ça, il s'appelle.
Ah non,
c'est
ok, ça. Moi je pensais que tu parlais de l'alien Wendelfist.
Non, pardon. Ah non, 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 celui qui est à la fin, celui-là.
C'est l'espèce de leader de la mafia locale qui est...
Oui, c'est ça, c'est une espèce d'araignée.
Ouais.
Donc voilà, après il y a le petit côté, on passe sur Corellia, on va voir Lady Proxima, alors il y en a une qui s'appelle Proxima, l'autre qui s'appelle Domina, c'est deux ladies, voilà. Après, je sais pas si on pourrait conseiller vraiment l'achat de ce volume, parce que même si j'ai passé un moment agréable, en toute sincérité, il est largement dispensable, on verra en fonction de nos notes tout à l'heure. Je vous conseillerais peut-être de faire l'impasse, en toute sincérité. Je pense que ça vaut pas l'achat, même si le moment est sympa. Alors, maintenant, je voudrais qu'on aborde la dernière case de ce volume, puisqu'on a l'apparition d'un chasseur de primes, de primes qui est connu des fans de Star Wars, mais qui était inconnu du nouveau canon. C'est le personnage de Dirge. Qui est un chasseur de primes qui était apparu pendant le premier dessin animé Clone Wars, donc le dessin animé 2D qui se passait ces petits épisodes de 3 minutes qui développaient en fait ce personnage comme un élément essentiel de la catégorie de vilain de l'époque et dont on n'avait jamais entendu ensuite parler.
Il était pas dans les comics, du coup, les comics
Legends. Ah si, à l'époque, dans les comics Legends, bien sûr, il y était, mais je veux dire, passé l'épisode 3, il n'y avait pas de... Enfin, passé la guerre des clones, il n'y avait pas de mention de ce personnage. D'ailleurs, ça se trouve, il finissait par mourir, je ne me souviens pas du tout. Je sais que c'est un personnage qui pouvait régénérer son corps, ça je me souviens, en tout cas dans l'univers légende. Alors...
C'était un chasseur de primes qui bossait pour les séparatistes, c'est ça Doku embauchait.
C'est ça.
Et qu'il allait tuer parce qu'il avait une haine contre les Mandaloriens. Et donc, par extension, contre les clone troopers, du coup, qui étaient les clones de
Django.
De Django. Et du coup, c'est pour ça qu'il était plutôt côté séparatiste et qu'apparemment, il serait tué par Anakin, d'après.
Ah, je me souvenais pas. Vraiment, mes souvenirs du légende qui sont beaucoup trop diffus. Pour ceux qui auront l'image, Francis nous fait la petite présentation de cette page. Moi, je trouvais que c'était intéressant parce que déjà, c'est un personnage qui n'est pas inédit, mais c'est un personnage qui est inédit au sein de l'univers légende, de l'univers canon, pardon. Je trouve que c'est intéressant de le ramener en dehors de toute une autre galaxie de chasseurs de primes et de le faire confronter à des personnages qu'on a moins l'habitude de voir, déjà face à des chasseurs de primes, parce que elle a été poursuivie, Aphra, mais dire c'est pas son cœur de l'univers, c'est pas les chasseurs de primes. Donc, je sais pas ce qu'ils en font après. J'ai pas lu les épisodes qui vont venir. Je pense que vous, messieurs, vous le savez. Et vous allez bien évidemment nous garder des informations.
Alors, en fait, ils vont se battre.
Et puis, Sana va la tuer. En tout cas, j'étais vraiment surpris. Je m'y attendais pas. C'était une belle surprise. Et j'ai hâte, en tout cas, de lire les passages liés à ce personnage, en tout cas.
Pour bondir sur ça, tu vois, même sans connaître, même les novices du Legend, comme certains, qui s'intéressent quand même au truc, eh bien, qui voient des personnages Legend se faire recanoniser dans le truc, je sais pas pourquoi, ça me fait vraiment plaisir, quoi, tu vois, ça m'intéresse au truc, et du coup, je recherche un peu dans quelles heures ils étaient apparus auparavant, les différences, tout ça.
Oui, parce que tu pars refaire l'histoire du personnage.
Ouais, voilà, voir ce qu'ils en font après dans le canon, mais je trouve ça génial de faire comme s'ils en fait avec d'autres personnages récemment. Ils ont réintroduit ça du légende au canon. Il y a un certain respect, alors je ne sais pas si c'est vraiment du respect ou du fan service, mais je trouve ça sympa qu'ils recanonisent des trucs. Hein.
Je ne sais pas si c'est du fan service, parce qu'on ne peut pas dire que Dirge était un personnage favori des fans non plus, même si c'était un personnage qui était intéressant. Par contre, au moins ils font.
Pardon.
Oui. Vas-y.
Sur le Discord, dès qu'il y avait l'issue, tu voyais Serge en première page, ça fait.
Je me souviens pas.
Non, tu te rappelles
mais
pas.
On le connaît. C'est un personnage qu'on connaît si on a suivi un petit peu l'univers Star Wars d'il y a 15 ans. Je pense que toute une génération de fans, y compris sur notre Discord, ne le connaît pas. Et c'est intéressant de dire, ce personnage, il avait du passé, mais C'est pas un personnage que vous connaissez, d'autant plus que dans ce numéro, on n'a pas son nom. On a juste son apparition sur une case, mais on n'a pas son nom. Donc, quelqu'un qui ne le connaîtrait pas se dirait juste « Ah tiens, il y a une nouvelle menace. Juste par le design, ça peut m'intéresser ou ça peut ne pas m'intéresser. » C'est intéressant.
Pardon, je ne sais pas si tu voulais rebondir sur ça, Francis.
Non, je m'apprêtais à partager à l'écran justement la couverture dont tu parles. Et là, il n'y aura pas de doute, on a son nom.
C'est la couverture du numéro d'après, alors.
Oui, exactement, c'est le numéro 11, donc ouais. C'est pas un spoiler, on en parle depuis tantôt. Mais voilà, ils reprennent quand même pas mal le look des légendes, on va appeler ça comme ça. Là.
Bien sûr. Après, à voir si c'est un personnage qui peut se régénérer avec des espèces de muscles tentacules qui étaient en dessous de son armure, on verra.
Mais oui, voilà. Comme Jean disait, effectivement, quand ce numéro-là est annoncé, là, ça a été... sur certaines discussions, ça a explosé là, de jouets pour certains. Moi, c'est un personnage, franchement, pour moi, sans intérêt, là, zéro besoin de le retrouver. Mais comme on disait, là, je pense que c'est Jean qui mentionnait, c'est des petits clins d'œil qui peuvent justement intéresser les gens à aller voir son passif en légende, tout ça. Ceux qui l'aimaient à l'époque sont juste contents. Donc, c'est un peu le même principe que Christian Lenoir dans Boba Fett.
Francis,
pas,
c'est un personnage qui avait du charisme quand même. Enfin, je veux dire,
oui, quand même, ouais.
Il dégage quelque chose, tu vois.
Mais dans une série
c'est
animée.
C'est pas Zuckus et Forlum, par exemple.
Je suis d'accord, mais tu sais, tu dis souvent, Loïc, est-ce que ça fait Star Wars, ou en tout cas, est-ce que je peux me l'imaginer à l'écran, grand écran? Pour moi, Zuckus, évidemment, c'est peut-être parce que j'ai grandi avec ces personnages-là, existaient au grand écran déjà, mais quand je regarde Durge, je me le figure très mal.
Oui, c'est vrai.
au grand écran.
Je peux pas nier que je suis d'accord avec toi sur ce point-là.
Ne serait-ce que ces dimensions...
Bien sûr.
Tu comprends? Ne sont pas pratiques du tout. Là. Il ne peut pas passer dans la plupart des cartes de porte dans n'importe quel vaisseau.
Il sera quand même facile de le semer. Il suffira de passer par une porte où il ne peut pas rentrer et puis on sera tranquille.
C'est ça, exact.
Mais c'est vrai, ce que tu dis, et je le verrai dans le prochain volume. Est-ce que. Parce que c'est ce que j'ai souvent reproché à Afra, je ne peux pas non plus cracher dans la soupe. J'ai souvent reproché à Afra que. Ce qui se passait dans sa série me semblait inadaptable et donc incohérent d'un certain point de vue avec ce qui se passe dans l'univers de la saga. Mmh. Maintenant, effectivement, tu as raison, c'est pas parce que j'aime bien le personnage de comme ça, sans être forcément emballé, que je dois lui passer ça, alors que je le passerai pas à d'autres concepts. Donc là-dessus, je te rejoins, il faudra que je sois totalement cohérent avec moi-même, même si parfois c'est difficile.
J'imagine qu'il y aurait moyen de le crédibiliser. C'est juste que de le mettre dans un environnement où est-ce que ça peut paraître plus crédible. C'est juste que c'est ça. Quand je repense à la série animée, c'était Clone Wars.
Oui.
C'était très bien, mais pour un animé, c'est ça. C'est
oui, bien sûr.
Repenser à cette série là. Transposez-la en live action.
Surtout que sa première apparition, il était sur un speeder bike avec une espèce de lance.
Ouais.
Il faisait face à Obi-Wan de la même façon, donc pour rappeler le combat de chevaliers qui s'affrontent en essayant de se désarçonner. La joute, exactement, merci Francis. Donc on avait une joute à speeder bike. C'est vrai que si j'essaie de le transposer sur une version live, ça peut être plus compliqué. Maintenant, à l'époque, j'avais pas ce. Comment dire j'avais pas cette façon de penser non plus. C'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. Ce besoin de me. Parce qu'on a aujourd'hui des séries live et beaucoup plus de concepts, on va dire, animés ou papier qui deviennent réalité. Alors qu'à l'époque, c'était pas le cas. Ou alors, ça a été, mais très, très, très anecdotique. Comme Alias et Kura, par exemple.
De toute façon, je dis pas que c'est un OSD, etc. Là. Pour moi, c'est vraiment puis le parallèle avec Black Chrysanthemum ou Christian Lenoir dans Boba Fett, pour moi, c'est la même chose. Il y en a qui ne comprendront pas notre intérêt pour lui, c'est parce que lorsqu'on a tout lu, même écouté l'audio-drama, etc., quand on connaît tout le passif de ce personnage-là, c'est vraiment une super belle surprise de l'avoir au grand écran. Vraiment,
mais complètement.
Là, hyper apprécié.
Complètement.
Donc, pour moi, c'est la même chose ici. Là, c'est juste que, c'est juste que moi, son backstory, non seulement je ne la connais pas très bien, mais je m'en contrefous. Donc...
Oui, oui, mais après, je suis d'accord avec toi, Francis, sur, le, sur ce principe-là. Par exemple, Dirge, c'est un personnage que, auquel je vais lui accorder beaucoup moins d'importance que notre Christian le Wookie. Pourtant, ça resterait intéressant de voir ce personnage en version live, justement pour l'effort de cross-média qu'on a depuis, depuis on va dire, le début de l'univers canon, de l'univers Disney. Là, on a une nouvelle pierre. Alors certes, des fois, il y a des entailles qui sont faites dans les contrats, etc. Mais moi, je prends toujours du plaisir à voir une combinaison des différentes, des différents médias qui se croisent et s'entrecroisent, et ça me fait toujours plaisir. Et je me dis, voilà, avoir Dirge, même en caméo ou même à un arrière-plan, etc., bah, s'il n'est pas mort, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mm-hmm. Ça rajouterait quelque chose. On a besoin d'une diversité de personnages. Ce Wookiee dont on parle, par exemple, je serais content de revoir Sagwa. Sagwa le Wookiee, qui était dans Solo, dont on va reparler dans une prochaine émission. Ben, je me dis, ça pourrait être sympa dans une prochaine apparition de Chewbacca, ben, peut-être de le replacer. Ben, ou même sans Chewbacca, d'ailleurs, puisqu'il est sur Naluta, qu'on a parlé de Naluta, peut-être qu'on verra cette planète, et pourquoi pas avoir ce Wookiee, pourquoi pas le faire se combattre avec ce Wookiee noir, ça serait, voilà, ça pourrait être intéressant. Donc, moi, je ferme pas la porte à quelque chose de cross-média. Si ça se trouve, ça sera cantonné à la série Aphra, et puis on en entendra plus parler. Dans les prochains épisodes, il va mourir et puis on sera tranquille, quoi.
Mm-hmm. Ben, moi, je conclurai sur le fait, vu que c'est pas nécessairement le sujet de l'émission, mais vu qu'on en parle, les possibilités de live action, d'amener des personnages, maintenant qu'on a Christian Lenoir, oui, Dirge est une possibilité, surtout dans un monde de chasseurs de primes, tout ça. Mais en termes budget et plutôt marketing et tout ça, ben, Aphra, comme Jean a dit tantôt, personnage asiatique, personnage déjà apprécié, connu de beaucoup de personnes. Et Sana Staros, s'il y a une mode en ce moment, il suffit de lire La Haute République pour voir que les jeunes femmes noires sont plutôt à la mode côté production Star Wars. Et même si on sort de Star Wars, disons que les jeunes actrices noires sont plutôt occupées ces temps-ci sur les tournages. Donc, moi, c'est un personnage, Sana Staros, que je trouve super intéressant. Qui justement fait un certain pont aussi entre rebelles et pas nécessairement chasseurs de primes, plus contrebandiers, tout ça, qui est sur Corellia dans cet album-là. D'ailleurs, on l'a pas mentionné, hein, on a même Lady Proxima.
J'en ai parlé tout à l'heure, Francis.
Oui, c'est vrai. Le gang des Verts Blancs. Mais c'est ça, c'est un personnage que j'aimerais beaucoup voir plus qu'Aphra. Même si Aphra aussi a ses qualités en tant que personnage, je veux dire. Je crois vraiment, là. Mais c'est ça, les gens qui n'aiment pas la déconnade, on va dire. De la même façon, c'est un peu la même chose chez Marvel. Hein. Gardien de la Galaxie, c'était justement beaucoup trop de la déconnade pour ceux qui prenaient Marvel au sérieux. Je vais lancer une insulte volontaire, là, mais pour prendre Marvel au sérieux, il faut déjà.
Alors. Francis, fais attention. Fais attention parce que
j'ai deux signale. Experts de Marvel aussi.
Et puis, autre chose, Star Wars est fait partie officiellement de l'univers Marvel. Mustafar est apparu dans la série animée What If, donc avec le château de Dark Vador, qui était donc dans le multivers de Marvel. Donc, fais attention, Francis. On n'est pas à l'abri que les gardiens de la galaxie viennent croiser l'univers de Dr. Aphra, pourquoi pas?
Qui sait? Non, mais bref, c'était juste pour mentionner le fait que quand on pensait à du grand écran, je crois que la couverture du numéro 11 avec Sana, Aphra et Dirge, je pense que c'est trois personnages qui seraient intéressants à retrouver.
Ouais, je suis assez d'accord. Peut-être qu'à la fin de la série Boba Fett, en post-générique, on aura l'annonce d'une série Dr. Aphra.
Qui sait?
Voilà. Jean, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter sur ce volume?
Oui, et toujours, évidemment, j'ai des tonnes de notes là que à chaque fois il me reste à dire et j'arrive jamais à tout développer. Justement, tu faisais la mention d'une référence à Dragon Ball et tu parlais du côté un petit peu manga et j'aimerais bien revenir sur ce côté-là. Moi, c'est ce qui m'a énormément plu dans ce tome-là en particulier. Donc, déjà, la dessinatrice, il y a trois dessinateurs, la scénariste. Et donc trois dessinateurs, il y a un dessinateur, donc le main, on va dire le principal, qui fait trois numéros, qui a un style vraiment très manga, moi j'ai trouvé, avec des personnages très colorés, et à la fois les personnages qu'il a créés avec le scénariste, on voit là avec Béol Deruyette, un nom, voilà, donc le concurrent de Lady Domina, qui est asiatique également, fait très japonais, alors il fait très, donc c'est des furios japonais, c'est les délinquants lycéens qui feraient pas du tout tâche dans un manga d'ailleurs, comme à la Kunio-kun, je sais pas si vous connaissez, si vous jouez aux jeux vidéo, les Kunio-kun ou les Young GTO pour ceux qui connaissent les mangas, ou récemment les Tokyo Revengers, c'est un petit peu le même thème, tu vois, des espèces de bad guys avec leur coupe un petit peu vraiment chelou, quoi. Donc là il y a vraiment la même coupe, donc référence à ça, et tous les personnages secondaires, donc t'as Ariol, Le personnage le plus insipide de ce tome-là, mais bon, il a un design très manga avec son espèce de coupe un petit peu avec les cheveux qui partent en l'air. T'as Koz aussi, donc le bad guys là aux cheveux violets, donc voilà, cheveux violets très manga. T'as la leader de du Unbroken Clan là, qui s'appelle Vukora, qui va essayer de pourchasser Afra et Sana pendant tout le tome, qui fait très Foot Clan, mais Foot Clan s'est inspiré donc de ce qui est ninja, donc un peu japonais aussi. Donc vraiment, je trouve que la série et ce tome en particulier a une grosse influence manga, oui. Et ça m'a beaucoup plu, quoi. Donc voilà, je voulais juste mentionner cet aspect là
ouais, c'est et vrai bien. Surtout si on enlevait la couleur là, ça serait encore plus évident là, entre autres sur les personnages dont tu parlais,
mais c'est vrai que moi je l'ai pas ressenti comme ça. Je suis un peu comme Francis, j'ai un peu de mal avec j'avais plutôt apprécié le dessin des premiers volumes. Sur ce second volume, je trouve que c'est compliqué. C'est la même remarque que j'ai sur beaucoup, beaucoup de volumes de la littérature Star Wars, c'est qu'on n'est toujours pas sur des dessinateurs. Enfin, encore une fois, l'univers Star Wars mérite d'avoir des dessinateurs bien plus aguerris. Je pense même une série comme Dr. Aphra, et probablement que ça l'aiderait peut-être à remonter aussi, parce qu'on n'en a jamais parlé ou on en parle très peu, mais Dr. Aphra, elle n'est pas très bien placée quand même dans les classements de vente aux États-Unis. D'ailleurs, c'est surprenant même que ce soit une série qui continue, donc je me demande si vraiment il n'y a pas des plans. Est-ce qu'il n'y aurait pas des plans qui sont vraiment sur la durée pour Dr. Aphra d'adaptation pour nourrir une série comics sur la durée, mais niveau dessin, je trouve que c'est un peu faible. En tout cas, alors pas pour le dessinateur principal que je trouve au niveau, mais on va dire pour les deux secondaires, c'est vraiment très succinct. Les visages, c'est pas fait à la va-vite, c'est pas le bon mot, mais ça manque de détails. Vas-y. Mm-hmm.
Justement, là, y a, en plus, y a ceux qui ont la vidéo, ils verront les dessins, donc ça c'est le numéro 7, c'est 6, 7, 8, 9, 10, donc les numéros, et ça c'est le 7, je crois que tu montres.
Ouais,
donc,
ouais.
Donc voilà, je voulais revenir sur ce problème de dessinateur. Alors déjà, le fait d'avoir plusieurs dessinateurs par tome, évidemment, bon, c'est très comics, mais c'est toujours... Ben, moi je trouve ça un peu toujours embêtant de ne pas garder un dessinateur pour un tome, tu vois, ça fait une continuité. Bon là, on en a 2,5, on va dire, parce que... Donc le premier, c'est le numéro 6... Et c'est le même dessinateur qui fera le dernier, donc numéro 10. Donc il s'appelle, donc j'ai son nom, si je ne le connaissais pas plus que ça, c'est Ray Anthony High. Donc il fait le 6 et le 10. Donc d'après leur bibliographie, ils sont quand même assez prolifiques chez Marvel et DC. Donc que ce soit lui ou Mi-Kyung Jong, qui est un dessinateur coréen, donc il fait les 7, 8, 9, qui est ce qu'on appelait depuis le début le dessinateur principal, entre guillemets, quoi, qui fait 3 numéros sur 5. Et donc. Ce Ray Anthony Height, donc qui a apparemment une carrière assez plutôt complète, on va dire, ben il n'est pas toujours constant. J'ai trouvé relativement bon sur le 6, par exemple, mais par contre sur le 10, tu disais qu'il ne fait pas ça à la va-vite. Ben là, moi, sur le 10, j'ai.
Oui, si, je te rejoins. Sur le 10, c'est très, très rushé.
Ah ouais, non, mais
et plus on approche de la fin, et pire c'est.
Ah ouais, voilà, exactement. Et c'est le dernier numéro, mais je sais pas si comment il s'appelle, Francis va nous montrer les images du 10, mais je pense que les visages dont tu parlais, c'est vraiment le 10, parce qu'il y a des proportions, mais t'es là, mais sans déconner, quoi, ça abuse un peu, quoi. Alors, est-ce que le gars, je sais pas, il était pressé par le temps, est-ce qu'il était malade, est-ce que je n'en sais rien, mais je trouve ça un peu abusé pour le dernier numéro, ce qui est dommage, parce qu'en demeurant, niveau histoire, moi, il me botte, voilà, alors là, voilà.
On l'a dit à l'écran.
Oui, ça, c'est une des pires planches. Ouais.
Ah, ouais, complètement.
Je l'avais noté aussi.
C'est affreux. Surtout que moi, j'aime beaucoup, donc, pour revenir à un point un peu plus positif quand même, au dessin de Mick Young-Jung. Donc, lui, pareil, hein, il est très prolifique chez Marvel. C'est lui qui lead la série Miss Marvel de Kamala Khan. Là, je ne sais pas si tu l'as lu celle-là, qui est pas mal. Enfin, niveau dessin, c'est très cartoon, une fois encore. Il a fait du Titan et du Nightwing sur DC, donc c'est très cartoon, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup son trait. Et ouais, donc c'est ça le problème, c'est l'alternance, enfin l'alternance là, plutôt le fait que ça soit ce deuxième dessinateur qui vient de tout gâcher, quoi, parce que t'aurais gardé le même dessinateur, ok, c'est pas un grand nom pour l'instant, et après c'est pareil, il faut donner la chance au nouveau aussi, quoi, faut bien qu'il commence quelque chose. Est-ce commencer sur Dr. Aphra, c'est peut-être pas mieux de commencer que de faire une série, genre plus, on va dire, plus populaire comme Star Wars ou Vader, quoi, là c'est quand même série un peu plus secondaire, on va dire, Aphra. Donc pourquoi pas donner la chance aux jeunes comme ça. Mais ouais, le Ray Anthony Reid, là, j'étais vraiment, vraiment dégoûté du dernier numéro, quoi. Ça m'a... Ouf. Mm-hmm. Ouais. Et en plus de ça, le pire, c'est que le gars, sur le numéro 6, est aidé par un troisième dessinateur qui l'assiste sur le numéro 6. Donc tu me dis, c'est peut-être l'assistant qui a réussi à sauver le coup, parce que le 6, c'est pas trop dégueulasse encore. Mais ouais, le 10... Osco, quoi. Et alors pour les couvertures aussi, je sais que Francis t'es très friand des couvertures et pareillement, je suis aussi très friand de couvertures et je pense que tu seras d'accord avec moi qu'on est loin d'Ashley Witter, quoi.
Oui, exact. Même si il y a un effort quand même, on voit sur le numéro 8 quand même qu'il y avait un gros effort au niveau du détail. Même chose sur le dernier, j'ai beaucoup aimé les jeux de lumière, tout ça. Mais globalement, c'était pas entre autres le premier, là, le numéro 6.
Ouais, c'est pas
donc, top. Et j'aurais pas fait le même choix que Panini pour ce qui est de la couverture.
Quelle couverture exemple?
Le 7e, dans le fond. Donc
celui de Aphra. Je présente le mieux.
D'accord.
Ouais. J'aurais été plus pour le 8e, 8, 9 ou 10, hein, mais bon.
Ah, parce que normalement, moi, je serais parti pour le 6, tu vois.
Ah oui.
Ouais. Non, c'est ça. Bon, évidemment, ça, c'est une question de goût, là, mais oui, on est loin de Ashley Witter, qui donne vraiment envie d'acheter des comics.
Ah ouais, c'est magnifique. Et du coup, est-ce que sur le tome de Panini, vous avez aussi les variantes cover? Parce qu'il y a des variantes cover qui sont pareilles, qui sont pas ouf. Il y en a certaines qui sont très belles, là. Je sais pas si vous les avez dans le tome de Panini, du coup.
Ouais, en petit à la fin, oui.
Il y en a une, je ne sais pas si tu te rappelles, Francis, il y en a une sur sa moto. C'est une variante du tome 6, du numéro 6, parce qu'il y a un passage où elle s'échappe en moto. Et donc là, il y a une couverture focus sur ça et elle est magnifique. Quoi. C'est vraiment...
Il faudrait que je regarde, je ne me souviens pas.
Presque Ashley Witter, mais voilà. Donc, c'était le petit passage couverture.
Mais même ces couvertures, il faudrait que je revérifie, mais je pense qu'on a plusieurs dessinateurs différents là, selon les numéros.
Oui,
c'est pour ça qu'il y a plusieurs styles.
Ah, oui.
Fait que moi, les auditeurs habitués savent ce que je pense des mélanges de différents artistes et différents. Là, et je crois que c'est encore pire qu'au scénario, parce que au scénario, au moins, on ne s'en rend pas compte visuellement. Je veux dire, quand même, il y a un changement de scénariste, généralement, on ne va pas s'en rendre compte tout de suite. Il faut vraiment qu'il y ait un changement de tendance ou d'histoire, de style. Alors qu'au dessin, là... C'est ça. Mais comme tu dis, Jean, c'est très comics. C'est ça. Moi c'est je préfère quand au moins un arc au complet. Tu sais, quand il y a un one-shot ou des choses comme ça, tu sais, OK. Mais un arc là, avec plusieurs destinataires, Et le pire dans tout ça, bon, ça ferait une bonne question à poser à peut-être qu'Aurélien connaît un peu plus ce sujet-là. Moi, personnellement, je ne m'explique pas pourquoi c'est si difficile d'avoir un dessinateur, on prend par, mettons, arc, ou tu sais, quand vous signez le contrat, là, vous ne pouvez pas le signer pour 5
non,
numéros.
C'est, alors, Francis, il y a deux choses. La première, c'est que tous les auteurs, enfin, tous les dessinateurs, ne sont pas aussi rapides les uns que les autres. C'est-à-dire que tenir un rythme de 22 pages par mois, pour des mensuels, c'est un rythme qui est quand même assez entraînant. Donc en général, ça se passe comme ça. La série est commandée, le dessinateur dessine un certain nombre de numéros d'avance, en général au moins une moitié de l'arche narrative, et pendant que les premiers épisodes sont édités, publiés, ben, il va continuer à dessiner la suite. Mais parfois, ben, il suffit d'avoir du retard. Ça peut être l'auteur qui a du retard sur son scénario, qui a dû le retravailler. Ça peut être le dessinateur qui, effectivement, est malade ou s'est blessé. Et tu peux enchaîner comme ça, ou voilà, tout simplement, il n'est pas aussi rapide. Donc, au fil des numéros, il va enchaîner du retard. Et quand arrive trop de retard, on va prendre effectivement ce qu'on appelle un fill-in, un dessinateur fill-in, pour prendre la suite, pendant que lui va reprendre le fil de sa série en dessinant deux numéros plus loin, quoi, par exemple. Donc souvent, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, sur les dessinateurs les plus aguerris, on a des gens qui sont capables de tenir la distance sur des épisodes mensuels sans perte de qualité. Chez Marvel, il y en a, hein, bien sûr. Il y en a quand même beaucoup qui savent le faire.
Ben c'est ça, c'est que je comprends tout ce que tu expliques, mais je peux pas dire que je pardonne la chose.
Ça ne change rien.
Pour moi, soyez organisé. Bon, là, c'est vrai que avec l'événement et tout ça, on a des comics qui doivent se passer en parallèle et s'entrecroiser. Fait que là, je peux comprendre que
oui, alors,
y a certains défis de livrer à telle ou telle date. Là,
sur un crossover de cette ampleur, il y a un double défi. Ouais.
C'est ça.
Pour la suite, il n'y a pas. Ce sera toujours le dynamique duo de Alyssa Wong, donc on n'a même pas noté le scénariste. Alyssa Wong et Mick Kyung-jung donc, seront de retour pour pas mal de numéros après. Donc c'est rassurant. Quoi.
J'avais critiqué la scénariste au premier numéro. Donc là, déjà, je trouve que ça s'est amélioré. Donc c'est ça. Mais j'avais même mentionné le fait que c'était peut-être un petit peu... on a pris le fond du panier, si on peut dire. Là, au premier numéro, je trouvais... il était 4, je pense, là, si on prenait toute l'équipe, colorisation compris, tout ça. Là. Cette fois-ci, justement, je trouve que ça s'est beaucoup amélioré.
Tu vois, moi, je trouve je la trouve justement relativement bonne. Quoi. Elle a toujours des... au niveau des dialogues, alors peut-être pas sur la trame principale, c'est des histoires relativement simples, mais au niveau de tout ce qui est dialogue, je trouve qu'il y a énormément de petits... comment ça s'appelle, Afra et Sana, elles s'envoient des punchlines sur punchlines. Et je trouve ça, tu sais, du tac au tac et tout. Je trouve
la dynamique. Super bien
développée. La dynamique entre les deux est très bonne, et je trouve que c'est à mettre au crédit de la scénariste, quand même. Donc, l'humour aussi, elle a un humour assez bon. Évidemment, c'est l'humour, c'est ultra subjectif, mais je trouve que l'humour de Afra, elle marche à 100%. Et le côté aussi, t'as un passage où, justement, on en avait parlé un petit peu précédemment, où elle ramène le fait qu'elle était sortie avec cet impérial, comment ça s'appelle, j'ai le nom.
Tolvan,
voilà. Donc, elle fait mention de ça. Du coup, Afra s'énerve un petit peu parce que, bon, tu sens qu'il y a quelque chose. Enfin, une petite romance, moi, j'aime toujours ça, tu vois, quand il y a un petit peu de romance là-dedans. Donc il y a ça, tu vois, elle ramène ça, il y a une petite allusion au droïde, donc à Triple Zero et BT-A1, elle fait la connexion avec la République, donc je trouve que Alyssa Wong, je la trouve plutôt bonne, niveau scénario, ça va.
Et bien enchaînez avec vos notes, messieurs.
Jean, je crois que c'est toi qui vas avoir la meilleure. Si tu y allais en premier.
Finir, voilà. J'y vais en premier. Moi, je voulais finir sur la meilleure note, du coup, en dernier.
On peut. Alors, je vais commencer peut-être. On va faire aller crescendo. Moi, je lui mettrais un 12. Ce qui me semble honnête au regard de ce que j'ai pu penser de la précédente série Afra. Deux volumes Afra qui ont une note au-dessus de 10, pour moi, je crois qu'on est sur quelque chose d'un peu inédit.
Très surpris, bravo.
T'avais donné combien au premier
Je me souviens plus, mais peut-être même plus que ça.
Je crois que c'était du 14.
Ouais. Je crois 14. Que c'était 14.
Ouais, parce que ça m'avait surpris lors de l'écoute. Ça change.
Eh oui, comme quoi.
Moi, de mon côté, ça va être l'inverse de ta tendance. Moi, c'est une tendance à la hausse. Donc, je vais passer de 11 que j'avais donné au premier à un 13 à celui-ci. Je maintiens que... le pire, c'est que... On a parlé des deux dessinateurs. Comment dire? Les deux, j'ai pas détesté. C'était quand même par moments bien, mais c'était inconstant. Hein, c'était inconstant. Mais beaucoup du pointage, bref, de ce 13 sur 20-là est à mettre au crédit du dessinateur. Parce que c'est ça, le scénario, il est pas mauvais, mais c'est ça, c'est tellement léger, c'est tellement rapide. Mais ça se tient. Il n'y a pas d'illogisme sans... incroyable. Comme tu as dit, la caractérisation des personnages, ces gens, tu disais ça, là, pour Afra, est quand même bien là, pour Sanastaros aussi, un peu pour tout le monde. Donc, voilà, ça va en s'améliorant. Donc, on va voir pour la suite au cours de l'événement de la guerre des chasseurs de primes. Et toi, Jean?
OK. Ben, moi, j'ai pas trouvé ça super top, en fait. Je crois que j'ai mis 5 sur 20, j'ai mis. Parce que j'ai vraiment détesté. Après, elle commence à me saouler. Non, je déconne. Évidemment, moi, j'adore le perso, donc j'arrive pas à être... encore, ce sera ultra subjectif, parce que vraiment, j'ai trouvé ça excellent. Donc, j'ai mis un 18. 18 sur 20, c'est quand même un poil moins que les précédents, on va dire. Je trouve que la série 2020 est un poil moins... enfin, je la trouve un peu moins intéressante comparée à la série 2016, mais après, c'est un point, quoi. Non, comme tu dis, hein, la personnalité d'Afra, l'humour, c'est vraiment l'humour. Après, voilà, c'est ultra... Il faut que t'accroches, hein. Tu vois, t'as des humours, t'accroches pas. Mais je comprends très bien que cet humour-là est en particulier, quoi. Et je comprends très bien que quelqu'un n'accroche pas à ça, quoi. Moi, ça marche énormément sur moi. Tu me rajoutes à ça, donc Sana... Que pareil, comme toi, Francis, j'adore ce personnage, génial. Tu me rajoutes Black, comment elle avait appelé, de Black Chico. Donc là, qui fait une petite heure, là, ça j'adore. Tu me rajoutes des monstres comme, ben, on a dit, le chef de la mafia sur Cantobite, ou même il y a un chasseur de primes, ben, qui va livrer Afra à Dominar en début, là,
insectoïde. Genre de mante religieuse.
Ouais, voilà, c'est génial. Donc voilà, tu me fous des monstres comme ça, génial. Les références manga, moi, ça m'a beaucoup touché. Je suis très, très manga, donc c'est bon, c'est vendu, quoi. Donc, et comme le dit Francis aussi souvent en parlant d'Afra, c'est le côté Gardien des Galaxies. Moi, c'est mon Marvel préféré, tu vois, dans le MCU, le Gardien de la Galaxie. Et plus, voilà, même en comics, il y a la série de Bendis. Tu as dû la lire, peut-être, Loïc, quand Bendis était revenu sur Gardien de la Galaxie, oui. Justement, qui faisait très... c'était un petit peu l'écriture similaire. Mais je pense que ça s'appelle Gunn, c'est inspiré de la série de Bendis, quoi, pour faire ses films, parce que c'est justement cette espèce...
Ah non, c'est l'inverse. C'est l'inverse.
Ah, c'est l'inverse, quoi.
Ouais, mais c'est Bendis qui a adapté le style de Gunn.
D'accord. Okay.
Voilà, dans le sens. Okay,
mais, voilà, et cette écriture de dialogue, en fait, que je trouve que la scénariste fait vraiment très bien, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait aussi penser à la série, je ne sais pas si vous l'aviez vu, la série Harley Quinn en animation pour adultes. Là, donc,
non, je ne l'ai pas vu.
La dynamique Harley Quinn, Poison Ivy, non ? Ouais, je te la conseille.
Non. Il y a le problème. Mais il paraît.
Ouais. C'est pareil, il y a une espèce de dynamique. Tu dirais Harley Quinn, c'est un peu la Afra qui fait n'importe quoi. Tu as la Poison Ivy un peu plus posée qui va dire ah, mais arrête, ça va partir en live et tout. Le team-up fait vraiment passer à ça. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc les dialogues, encore une fois, très bien écrits. L'histoire, elle est comme elle est plutôt simple. Mais bon, moi, les dessins de June m'ont énormément plu. Et malgré le problème des dessins de l'autre dessinateur, ça m'a... J'adore tellement le truc que j'oublie un petit peu les défauts. Hein. Ah oui, Lady Proxima aussi. Domina, du coup. Elle m'a fait penser, petite référence, encore une fois, à Dune. Tu parlais donc d'un lien avec j'ai plus le nom, la princesse dans la série Star Wars.
Shuttorun.
Shuttorun, voilà.
La reine Trios.
Voilà, la reine Trios, Shuttorun, voilà. Exactement. Moi, je pensais plus à la... Dans son design, déjà, dès que j'ai vu, j'ai fait c'est Lady Jessica de Dune. C'est très, très simple, avec juste une robe, les cheveux roux, longs, très longs. J'ai trouvé ça très beau. Et puis, voilà, elle porte le titre de Lady, un petit peu comme Lady Jessica de Dune. C'est aussi une leader forte, indépendante, voilà, comme Jessica. Elle fait partie d'une maison, donc il parle beaucoup de la maison Tag, la dynastie Tag étant le comics. Donc c'est pareil, t'as la maison Atreides, la dynastie Atreides. Donc voilà, donc un petit clin d'œil à Dune qui me fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'ai tous ces petits points un petit peu positifs qui sont ajoutés. Ça m'a fait vraiment passer un excellent moment. Et c'est vraiment pour moi, c'est la ongoing que je prends vraiment plaisir à suivre et puis j'attends chaque numéro avec impatience, et c'est ouais, mon ongoing préféré, je pense. Quoi. Avec les High Republic, peut-être aussi, tip-top, quoi. Donc voilà, 90%, je crois. Voilà.
Ben, c'est sur ces notes quand même relativement correctes qu'on va pouvoir conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, si vous avez envie d'en discuter avec nous, si vous avez envie de réagir sur Dr. Aphra ou sur Black Chico ou sur quoi que ce soit d'autre, venez comme d'habitude, hein, Facebook, Twitter, Instagram, surtout sur notre serveur Discord. Vous le savez, on vous accueille avec plaisir et on a vraiment de très belles discussions. Sur notre chaîne YouTube, vous pourrez aussi nous faire part de vos commentaires, mais aussi vous pourrez vous abonner, activer la cloche et vous serez comme ça au courant de tous nos lives qui parfois peuvent popper d'une minute à l'autre ou de toutes nos émissions qui sont postées comme celle de ce soir qui est une émission enregistrée. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux et aidez-nous à faire croître la communauté. Et de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.